Bonjour Gérald.
Bonjour Patricia.
Bonjour, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui, non pas pour un, mais pour deux ouvrages qui viennent d'être publiés, donc l'un aux éditions Odile Jacob, c'était en septembre dernier, hein, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Hein,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Donc c'est un essai sous forme de dictionnaire, un petit peu, on peut le présenter ainsi
D'abécédaire,
voilà.
D'abécédaire,
oui, plus exactement.
Oui. Ce sont 30 petits chapitres qui sont chacun consacrés à un mot,
voilà.
Du langage courant.
Voilà. Exactement. Un mot analysé, décortiqué. Alors, pour exemple, les mots absolu, racine ou infini, on le voit, ce sont des mots que l'on emploie en mathématiques et vous savez de quoi vous parlez, bien sûr. Juste un mot, comment avez-vous sélectionné ces 30 mots? Parce qu'il fallait quand même se brider un petit peu, ne pas en proposer trop.
Oui, bien sûr, on aurait pu en proposer
plus,
mais j'ai voulu prendre justement des mots du langage courant qui ont un sens qui ont un sens particulier en mathématiques, mais qui sont des mots de tous les jours.
C'est ça.
Donc le livre est un petit peu conçu comme une porte d'entrée vers les mathématiques pour tout le monde, quoi, pour tout un chacun.
Des mots et des maths, c'est donc aux éditions Odile Jacob. Entre les mots et les chiffres, vous avez décidé une fois pour toutes, Gérald Tenenbaum, de ne pas choisir.
Oui, entre les mots et les nombres, parce que les chiffres, les mathématiciens s'occupent des nombres.
Des nombres, plus exactement.
Pas vraiment des chiffres.
Bon, vous l'avez compris, je suis plus attirée par les mots que par les chiffres et les nombres.
Oui.
Alors, deux ouvrages différents, mais qui témoignent tous les deux de votre amour des mots et des nombres, plus exactement.
Oui,
heureux hasard, cette parution concomitante, quand même, hein.
Oui, c'est les hasards de l'édition,
aussi.
Mais effectivement, mais
ouais.
Bon, ça s'est fait comme ça.
Ouais. Et donc le deuxième ouvrage dont nous allons parler plus longuement aujourd'hui, c'est les reflets des jours mauves, plus exactement. C'est donc un roman paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, maison d'édition à laquelle vous êtes particulièrement fidèle, et je vous comprends.
Oui, c'est le cinquième livre que
ouais.
Oui. Dans cette maison.
Oui. Effectivement. Alors là, c'est un roman, ce n'est plus un essai ni un abécédaire. L'histoire, en quelques mots, sans dévoiler bien sûr trop de choses pour laisser le plaisir intact à vos futurs lecteurs, c'est l'histoire du professeur Michel Lazard, qui est un généticien. Il s'apprête à quitter son poste pour une retraite bien méritée. Pour marquer son départ, ses collègues organisent une petite réception au cours de laquelle il va rencontrer le journaliste Ethan Desnoyers, journaliste au Lancet. Et donc Ethan souhaite interviewer le généticien. Il décide donc de s'éloigner un petit peu et d'aller dans un bar. Et devant quatre parfaits inconnus, Michel Lazard va se confier, raconter ce passé qu'il porte en silence depuis si longtemps, pour vous citer.
Exactement, tout à fait. Et le fait que il est devant des étrangers devant ces étrangers, la confidence, qui est plus une confidence qu'une confession, la confidence est un peu diluée, et puis il se dit que peut-être il reverra jamais ces personnes, donc il peut enfin se libérer de ce passé qui l'oppresse et qu'il a gardé en lui pendant des dizaines d'années.
Pendant des décennies, effectivement. Oui. Et j'ai noté, page 33, un passage qui résume parfaitement ce que vous venez de nous expliquer, Gérald Tenenbaum. Vous écrivez « Oui, c'est bien un auditoire d'inconnus dont il a besoin pour se libérer, et qu'il soit plusieurs est essentiel. La décence commande de diluer la confidence. Se confier à une personne seule implique ou crée une grande intimité. En livrant ses secrets, on charge d'âme. Se confier à plusieurs, particulièrement s'il s'agit de rencontres éphémères, c'est jeter une bouteille à la mer, sans insérer son nom ou son adresse, c'est rester pudique, et Lazard a l'impudeur en horreur. » Ce paragraphe est absolument magnifique. Il dit tout de la pensée de Lazard et de la personnalité de Michel Lazard.
Hein. Oui, tout à fait. Il dit tout de son état d'esprit et il explique pourquoi il va effectivement se livrer et se délivrer à ce moment-là, oui.
C'est un explorateur du génome. Vous écrivez, il est inventeur de thérapeutiques d'avant-garde et il a caché pendant 30 ans sa plus grande découverte. Il ne l'a pas publiée, n'en a pas rendu compte dans un écrit privé. Il ne laissera pas de notes pour informer les générations futures. Cette découverte, depuis toutes ces années, il la porte comme une blessure muette. Les blessures muettes ne cicatrisent jamais. Elles saignent en silence et, goutte à goutte, remplissent tout l'espace intérieur. Je lis volontairement ces passages avec un infini plaisir, Gérald Tenenbaum, pour donner à notre auditoire une idée de votre écriture, de votre style, parce que évidemment ce livre ne fait pas exception. Je trouve que vous avez une plume tout à fait remarquable et je vous le dis comme je le pense.
Merci à vous.
Voilà. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur d'université, vous êtes mathématicien, vous avez publié plusieurs ouvrages sur la théorie des nombres, mais aussi parallèlement plusieurs romans. Et je me demandais comment venait dans votre esprit l'idée d'un roman, la trame d'un roman.
Alors bon, c'est difficile à dire. Bon, la trame d'un roman, bon, ça vient souvent d'une réflexion sur la société, de questions métaphysiques, et puis après, bon, bah, les personnages se mettent en place, ils se mettent à vivre, et puis ensuite le roman se construit. Mais là, disons, pour ce livre-là, j'ai eu envie aussi de réfléchir sur la tentation de transparence de notre société, où on veut et on peut tout connaître de soi, tout connaître de l'autre, avec l'internet, avec les aujourd'hui, pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez faire un karyotype et connaître exactement votre patrimoine génétique, savoir d'où vous venez, quels sont les liens avec éventuellement d'autres personnes. C'est même utilisé pour des enquêtes criminelles.
Oui, c'est vrai.
Et donc on peut comme ça tout connaître et finalement j'ai eu envie de réfléchir là-dessus et dire finalement tout connaître c'est peut-être un peu trop.
Oui, c'est vrai, mais ça ne vous a sans doute pas échappé. Depuis quelque temps, on voit régulièrement une publicité pour ces recherches
d'ADN. Sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est passé dans le grand public.
Complètement.
Tout le monde peut le faire.
À la portée de tous, et justement à travers ce livre vous démontrez aussi, vous montrez peut-être les limites de ce genre de recherche. C'est un petit peu ça. Vous êtes spécialisé entre guillemets dans des romans qui traitent du poids du passé mais aussi de la résilience, et ce roman ne fait pas exception, hein.
Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a ce double regard de Rachel, donc la femme qui va rencontrer et qui elle recherche la présence de ses disparus en elle, parce que je veux dire à travers le patrimoine génétique qu'ils lui ont laissé, donc elle regarde vers le passé, elle regarde les traces que lui ont laissé sa famille à travers son propre génome, et puis lui bien sûr il regarde vers l'avenir parce que c'est un chercheur et il s'intéresse à tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'on peut décoder de l'être humain à travers le patrimoine génétique.
Ce texte parle de la connaissance et vous le dites, la connaissance est un présent d'une infinie cruauté quand elle ne permet pas d'agir. C'est bien toutes ces questions, tous ces questionnements que vous nous proposez, que vous proposez à notre réflexion dans ce livre, hein.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que toutes les sciences ont pour but d'agir sur le monde. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand effectivement on sait, mais qu'on ne peut rien faire.
On ne peut rien faire, c'est ça.
Voilà. Et donc là, c'est le problème devant lequel se trouve Lazare, et c'est ça qui fait que finalement il se mure dans le silence, et que c'est seulement à la fin de sa carrière qui décide de se délivrer devant des étrangers, qui raconte cette histoire et qui raconte évidemment son grand amour.
Son grand amour pour Rachel, cette jeune femme qui avait participé à un programme d'études des années auparavant et qui l'avait subjuguée.
Oui, c'est cette jeune femme aux yeux incroyables,
oui.
qui a participé à et donc ses recherches à la fois à un moment donné elles l'ont rapprochée de Rachel,
oui.
Et puis l'en ont éloignée, enfin Et ensuite, voilà, il reste un point d'interrogation.
Ouais. On peut pas trop en dire, hein, parce que voilà, il faut vraiment laisser intact le plaisir pour le lecteur de découvrir cette histoire absolument magnifique que vous nous proposez. Et puis, d'ailleurs, un mot peut-être sur le titre, Reflet des jours mauves. Vous l'avez évoqué à l'instant, les yeux de Rachel expliquent en partie le titre que vous avez choisi.
Tout à fait. Hein, il est resté. Voilà, les jours de son amour, le moment où il a rencontré Rachel est resté imprégné de cette couleur.
Cette rencontre de Michel Lazard avec le jeune journaliste Ethan Desnoyers et puis ses inconnus à qui il va se confier, elle se déroule dans un café tout près de l'endroit où a lieu la petite fête organisée pour son départ à la retraite. Et dans ce café, il y a un billard et on a l'impression aussi que ce billard joue un rôle à part entière dans ce qui va se dérouler autour de Michel Lazard et de ses confidences.
Oui, parce que le billard, c'est un petit peu le symbole de la maîtrise du hasard. Ouais. C'est-à-dire que quand on joue au billard, on va à la fois, il y a une part de hasard parce qu'on peut pas contrôler exactement la manière dont les billes se déplacent, et en même temps, évidemment, le bon joueur est celui qui cherche à le contrôler le plus possible. Donc, et il se trouve que Ethan et Lazard sont tous les deux adeptes du billard.
Du billard
français, voilà.
Et on comprend bien que la présence de ce billard, de cette table de billard, ne doit rien au hasard, justement, dans votre roman, Gérald Tenenbaum.
Dans le roman, non.
Ouais. Il joue un peu sa vie et la suite de sa vie, finalement, un peu comme une partie de billard dans ce café, hein.
Oui, exactement. C'est une sorte c'est du tout ou rien, quoi.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Je veux dire, il va raconter. Si ça se passe bien, bon, il sent qu'il pourra continuer. Et autrement, on ne sait pas ce qui peut se passer.
Et on suit ses confidences, on suit son récit. On a peur pour lui, on s'inquiète pour lui. C'est un personnage particulièrement attachant que vous avez créé de toutes pièces, là, Gérald Tenenbaum. Hein. Ce Michel Lazard, il est particulièrement attachant.
Oui, au départ, il est un peu rêche.
Oui.
Effectivement, il se juge un peu lui-même de manière un peu assez abrupte. Mais petit à petit, on comprend sa psychologie, oui. On comprend que comment il en est arrivé là, et il est tiraillé entre la science et ses sentiments, quoi. C'est quelque chose dont j'avais envie que j'avais envie de partager aussi avec le lecteur. C'est la position du scientifique, le scientifique amoureux. Il est déchiré entre deux impératifs.
Oui. Vous m'entendez, Gérald?
Oui.
Ah,
oui,
d'accord, j'ai cru qu'il y avait une petite coupure.
Oui, effectivement.
Il a beau être le grand explorateur du génome, le généticien reconnu par ses pairs et par l'ensemble de la communauté scientifique, mais il révèle tout de même, à travers son récit, ses fragilités, ses faiblesses et ses questions, évidemment.
Oui, le doute, il explique à quel point il peut détester le doute.
Ouais.
Je veux dire, alors que souvent on prône, on dit que le doute c'est formidable,
c'est vrai,
etc. Non, mais pour un scientifique, le doute est un piège terrible.
Ouais.
Et voilà, on explique, toutes ses faiblesses et toutes ses vulnérabilités.
Oui, absolument. Et alors j'ai remarqué aussi, Gérald Tenenbaum, que il y a dans ce livre à plusieurs endroits du livre, à plusieurs passages, des liens que vous établissez avec vos ouvrages précédents, et notamment, bien sûr, l'attentat de l'Association Mutuelle Israélite Argentine à Buenos Aires, le 18 juillet 1994, on s'en souvient tous, en tout cas, moi je m'en souviens parfaitement, et ça avait donné lieu à un ouvrage de votre part. Pourquoi ce besoin de relier vos différents ouvrages entre eux?
Alors c'est là entre le précédent livre, donc Les Harmoniques, et celui-là, finalement, enfin pour moi, il forme une sorte de diptyque. C'est dans les deux cas, on a la question de la prise en main du destin de l'autre. Oui. Alors autant dans les harmoniques, c'est fait sur une très longue durée, sur 20 ans, mmh. et c'est fait avec beaucoup de délicatesse. Et là, l'urgence fait que cette prise en main, elle est assez brutale et elle est sur un temps court. Oui. Et évidemment, bon, le résultat n'est pas le même dans les deux. Disons que ces deux livres forment un petit peu les deux volets d'une même réflexion.
Oui, c'est ça. Très bien. Le titre, on l'a abordé il y a un instant. On n'insiste pas davantage pour laisser le plaisir au lecteur de découvrir.
Laisser le lecteur découvrir. Voilà. Oui.
Exactement. Alors, je sais que vous avez déjà présenté ces deux ouvrages, donc Des mots et des maths et Reflets des jours mauves, dans un certain nombre de librairies, au travers de rencontres avec vos lecteurs. Comment sont-ils accueillis ces deux livres?
Alors le livre mathématique au départ, évidemment, il fait toujours un peu peur, parce que les mathématiques font peur. Bon, ensuite, quand les gens mettent le nez dedans, ils se rendent compte que il s'agit vraiment plus de philosophie, de linguistique que de mathématiques. Il s'agit vraiment d'ouvrir la porte et d'essayer de comprendre comment les mots qui sont les mots de tous les jours qui ont des sens multiples par nature, ont un sens unique en mathématiques parce que les mathématiques ne peuvent pas fonctionner avec des mots qui auraient plusieurs sens. Bien sûr, un discours mathématique, chaque mot doit avoir son sens au cours d'un même raisonnement. Et donc, les gens se rendent compte que, en tout cas, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ces mots de tous les jours qui sont par nature polysémiques, oui. finalement, résonnent dans l'imaginaire des mathématiciens et gardent quelque chose de leur sens courant, même dans le sens mathématique. Pour donner un exemple, voilà, en mathématiques, on utilise par exemple le mot corps, qui est une structure mathématique. En anglais, la traduction de corps, c'est field, qui veut dire champ. Oui. Eh bien, je pense que pour un mathématicien français, quand on pense à un corps, on n'y pense pas de la même façon que pour un mathématicien anglophone.
Oui, oui. C'est vrai, c'est un bon exemple là que vous nous donnez. Vos précédents ouvrages ont reçu de nombreux prix. J'espère que cela également seront salués par les lecteurs, par la critique, parce qu'ils le méritent. Et puis, je voulais souligner, Gérald Tenenbaum, qu'il y a une postface absolument magnifique qui vous a été proposée par une généticienne, Ariane Giacobino, qui est agrégée à l'hôpital et à la faculté de médecine de l'Université de Genève et qui termine votre livre d'une façon tout à fait remarquable. Vous la connaissez personnellement ?
Alors, je ne la connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée.
Ah, d'accord.
Je l'ai un jour entendue à la radio alors que j'étais en train de terminer ce livre et j'étais absolument fasciné par le fait qu'elle, au fond, qu'elle parlait de la même chose. Donc, je l'ai contactée par téléphone.
Ouais.
Je lui ai envoyé le manuscrit qu'elle a aimé énormément et donc elle m'a proposé d'écrire. Au départ, c'était plutôt une préface,
oui.
et ensuite c'est devenu une postface parce que pour des raisons de dévoilement de l'histoire.
Oui, bien sûr. Oui.
Et il s'est trouvé qu'il y avait des convergences incroyables entre son livre, puisqu'elle vient de publier un livre sur l'épigénétique,
oui.
et le roman, en particulier sur le Rwanda, puisque des différents génocides,
oui.
et y compris de celui du Rwanda.
Oui.
Et elle explique aussi que les personnes qui ont subi les survivants du génocide du Rwanda ont pu transmettre à leurs enfants des gènes qui avaient été modifiés au cours de cette expérience traumatisante.
Ah, c'est incroyable.
Ça c'est absolument c'est fou. C'est un des éléments qui lie, c'est-à-dire que la fin de des événements du Rwanda coïncide avec la veille du jour de l'attentat de l'association mutuelle israélite à
de Buenos Aires.
Donc là aussi, sont des hasards qui nous contraignent. Ouais. Ce sont des hasards incroyables.
Ah oui, c'est incroyable. Et j'ai trouvé vraiment cette postface absolument magnifique. Elle rend un hommage tout à fait mérité et vibrant à votre talent non seulement de mathématicien, mais également d'écrivain. Et elle écrit « C'est ainsi que j'ai vécu ce beau texte à propos de votre roman, comme un prisme qui m'a fait saisir à quel point les questions d'origine, de destin, d'hérédité et les souffrances liées à certaines existences peuvent à la fois être romanesques et faire écho à mon quotidien, la génétique. Combien de drames, de déchirements entrevoyons-nous derrière certains résultats d'analyse, une peine infinie pour émerger d'un simple code. Ici, c'est le sentiment d'injustice à l'annonce que l'enfant tant désiré porte un destin génétique fatal à brève échéance. Là, c'est la perte de la femme, de la mère, emportée par un cancer à forte détermination génétique. » C'est absolument vraiment formidable, cette postface qu'elle vous a proposée, Gérald Tenenbaum, mais je trouve cette postface termine formidablement bien cet ouvrage. Et je voulais juste, pour terminer, rappeler que page 46, vous écrivez « En hébreu, le mot et la chose sont désignés par le même terme, davar. Au commencement était le verbe, les choses n'existent que dans la mesure où elles sont nommées. »
Oui, c'est vrai. Et finalement, cette réflexion-là, elle fait peut-être le lien les deux livres.
Les deux livres, absolument. Oui, tout à fait.
Et puis aussi le lien entre l'imaginaire et la science. Bon, ça aussi, c'est le lien entre les deux livres et la postface le montre bien. Ces deux domaines ne devraient pas être aussi séparés que... qu'on les pense général.
Ouais. Bah, vous parvenez parfaitement à les relier à travers votre travail quotidien, vos recherches et votre travail d'écriture, que je salue encore une fois ici aujourd'hui. Gérald Tenenbaum, ça a été un plaisir de vous recevoir comme d'habitude. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre prochainement pour un prochain livre. J'imagine que vous êtes déjà en train d'y songer, non ?
Bien sûr,
oui.
J'y songe déjà. Oui,
déjà, travailler déjà, mais peut-être que vous y pensez déjà. D'accord, très bien. Toujours sur ces mêmes thèmes du poids du passé, de la résilience, non ?
Mêlé d'autres choses aussi. Ouais.
D'accord, donc on attendra, on sera patient. Gérald, est-ce que vous avez encore quelques minutes pour découvrir la chronique de Nicole ? Vous êtes un habitué de l'émission. Chaque semaine, Nicole nous propose une magnifique chronique sur un mot qu'elle a extrait du titre du livre qu'on vient de chroniquer avec son auteur en général. Et aujourd'hui, bonjour ma chère Nicole.
Bonjour Patricia.
Gérald et nous-mêmes, nous vous écoutons très attentivement.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler du mot jour. C'est un nom masculin du latin diurnum, synonyme de dies, qui signifie jour, au sens de ration et salaire journalier, ainsi que de registre où sont consignés les actes du peuple et du Sénat, registre de compte. Substantivation de l'adjectif diurnus, qui signifie journalier, quotidien. Au jour le jour, quand la lumière du soleil éclaire la terre, il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. À chaque jour suffit sa peine. Jour de soleil, clarté du jour, jour Venise, brodée des jours. Paris n'a pas été bâti en un jour. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Jour sidéral au fil des jours et jour solaire à contre-jour. Le ciel et la terre furent créés en 8 jours. Jour J, jour pour jour, du jour au lendemain, demain il fera jour. Et il y a le livre de Gérald Tenenbaum, « Reflet des jours mauves ». Michel Lazard est un éminent généticien qui prend sa retraite. Lors de la réception qui célèbre la fin de sa carrière, un jeune journaliste sollicite un entretien. C'est pour lui, au cours de la nuit suivante, que le scientifique va raconter sa vie et sa carrière, ainsi que de tenter de relier ses souvenirs, ses émotions et le tour singulier compris ses recherches. « Reflet des jours mauves » est le récit des vibrations et des sensations liées au savoir de la génétique. Il évoque le passé des souvenirs et les traces qu'il laisse dans nos gènes. Il est érudit de beaucoup de sciences. Il est enchanteur de cette petite musique des sphères de la connaissance murmurée le long du texte. On y lit aussi le doute, la perte et la trahison. Le savant constate que toute la science a été impuissante face au sentiment amoureux et à la manière de s'en saisir pour les faire perdurer. comme si tant d'intelligence à comprendre la génétique et le code vivant qui fonde notre être n'avait pas pu remplacer l'intelligence émotionnelle première, celle de la rencontre de deux êtres, l'un pour l'autre, par le regard, par le toucher et par les âmes en résonance, alors l'amour aurait définitivement remporté la partie sur la science.
Gérald Tenenbaum.
Magnifique, magnifique, c'est formidable. Et en écoutant cette chronique, je me suis rendu compte finalement que ces reflets des jours mauves sont exprimés au cours d'une nuit.
C'est vrai.
C'est vrai que je l'avais pas réalisé ça.
Jusque-là.
Et cette chronique est absolument formidable.
Comme chaque semaine, Nicole nous ravit par le choix de ses mots, par l'agencement de cette chronique qu'elle nous propose chaque semaine, et les auteurs sont en général tout à fait émerveillés, comme vous l'êtes aujourd'hui, je suppose.
Ah oui, je confirme. Tout à fait.
Merci Nicole, à la semaine prochaine.
Merci Patricia.
Et merci beaucoup Gérald, merci beaucoup. De votre fidélité à Radio Judaïque à Lyon et à cette émission. On vous souhaite tout le succès que vous méritez pour ces deux ouvrages et pour ceux à venir, et pour lesquels nous aurons le plaisir de vous recevoir à nouveau.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Merci Gérald. À très bientôt. Au revoir. On va